On va reprendre pour cette ultime intervention après, avant, qui va précéder le verre de lait, puis la marche sur les lieux de la création et de l'arpentage de Marie, avec Philippe Anus, donc historien anthropologue, chercheur associé au LARA, et Rémi Corman, maître de conférence en histoire contemporaine, spécialiste des politiques de patrimonialisation de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et surtout, tous deux ont collaboré par le passé, hein, je l'ai dit ce matin, dans le réseau Memora, et ont publié un ouvrage, « Prendre le maquis ». L'invitation que nous avons adressée à Philippe et à Rémi repose en un dialogue autour des questions de mémoire, résistance et résistance dans les temps présents. Enfin, je sens que ça va être passionnant, mais je peux pas trop en dire, en fait. Donc, ça va être une surprise. Et le temps est compté. C'est parti. C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous. Au fait, Rémi, mais qu'est-ce que tu fais là et d'où tu viens ?
Oui, ça sent déjà la question piège. C'est une très bonne question. Tout à l'heure, il y a eu la question, c'est à quoi ça sert l'histoire ? Là, c'est un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais là, dans cette à Villa Glovette, et qu'est-ce que je fais à côté de Pizzeria Avalanche ? C'est un peu ça la question depuis tout à l'heure. Et c'est un peu la question qu'on voulait se poser tous les deux, c'est qui sommes-nous avant de parler ? Et rapidement, donc je suis Rémi, a priori on se connaît, on se connaît aussi un peu depuis tout à l'heure. Je suis historien, je travaille sur les questions de mémoire, et puis sur ce qu'on appelle la première mémoire, c'est-à-dire comment on travaille sur la mémoire juste après un événement. Et alors paradoxalement, d'habitude je pars tout le temps du Rwanda, ce que je vais pas pouvoir faire aujourd'hui, même si moi ça m'a beaucoup évoqué en fait des questions sur le Rwanda quand même, la pièce, et puis même les discussions depuis tout à l'heure. Mais il y a à peu près 20 ans, quand j'avais 20 ans, que j'étais étudiant, j'avais fait un stage au Musée de la Résistance à Grenoble. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur ces questions. Et puis, on a un peu travaillé, évidemment, avec Philippe autour de l'histoire, mémoire de la Résistance, avec tous les débats complexes autour de ça. On va un peu vous en parler, je pense. Et puis toi, tu es qui, du coup ?
Ben voilà. Alors, en fait, dans ce jeu de rôle un peu particulier, il m'a piqué ma phrase, parce que Pizza Avalanche, c'est moi. Pourquoi ? Parce que moi, je viens du pays, et ce matin, du pays de Polar Park. Polar Park, c'est Mout, c'est la frontière suisse, c'est dans le Jura, c'est le vrai pays de l'hiver. Le Vercors à côté, c'est un hiver de pacotille. Pourquoi ? Alors, c'est intéressant qu'Agathe ait ouvert la journée sur la thématique de David Lynch, parce que cette question de l'hiver, pour moi, elle est fondamentale dans mon rapport au Vercors. Moi, j'arrive ici en décembre 1991, un jour de tempête de neige, et puis je rentre en résonance affective avec ce territoire comme bien des personnes. J'aurais pu me mettre dans la peau d'un apprenti maquisard. Je me souviens d'une phrase extraite d'un ouvrage important sur l'histoire du maquis, d'un individu qui arrive de la région parisienne. Je crois que son nom de guerre, entre guillemets, c'est Carandache. Et il arrive par Fezazou, et il monte au plateau de Sornin, hein, donc au-dessus d'Autran ou d'Engin, et il devient parfait maquisard. C'est-à-dire que la montée au Vercors, elle participe d'une forme de transformation de l'individu. C'est un rite de passage, en définitive, que moi-même... Alors, c'est paradoxal, parce que moi, j'étais objecteur de conscience, hein, alors pour les aînés, c'était les personnes qui voulaient pas faire le service militaire. Et donc, je suis venu faire mon service civil, comme on disait dans le Vercors, un jour de tempête de neige. Et je me lie d'amitié avec la paysannerie du plateau et mon background jurassien. On m'a dit, mais vous avez pas peur de venir ici, etc. Avec ce lourd fardeau hivernal, a fait que finalement, j'ai aussi, par une relation affective à la saison, pu m'ancrer dans la vie du pays. Et je fais un petit clin d'œil à Maryse, parce que tout à l'heure, vous nous avez fait part de vos documents, vous avez parlé d'un témoignage, vous avez cité un témoignage d'une personne qui évoquait le terrible hiver 1940. Et c'est vrai que, moi, ma résonance avec la période de la Seconde Guerre mondiale, elle vient... Au départ, je suis pas intéressé par la thématique de la guerre, sincèrement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on pourrait appeler les populations subalternes, de manière générale, donc les voix mineures. Alors, en ce sens-là, on pourrait dire que je m'inscris dans la lignée de la grande historienne Arlette Farge ou de Michel Perrault, c'est-à-dire faire résonner, faire intégrer dans le grand récit, alors sociétal, social, de la nation, de la République, celles et ceux dont on pourrait discuter la légitimité. Les femmes, le monde paysan, les ouvriers, les immigrés. Et c'est par la thématique de l'immigration que je me suis finalement connecté à la thématique de la guerre, parce que je travaillais sur des histoires de vie, des parcours de travailleurs de la forêt qui venaient de la province de Bergame pour se livrer à une activité saisonnière, celle de bûcherons et de charbonniers. Et à cette occasion, je mène un certain nombre d'enquêtes auprès de ces personnes. Il y avait les derniers témoins de cette activité qui a disparu dans la région à l'aube des années 1960. D'ailleurs, les derniers charbonniers du Dauphiné sont en forêt de Chambaran. L'activité cesse en 73-74. Et ces personnes ont vécu la guerre en tant qu'immigrés italiens. Alors là, c'est une vraie question parce que, du point de vue, là, je fais un clin d'œil à notre collègue Julien, quand on parle des Italiens dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'armée d'occupation italienne. Mais qu'est-ce que ça signifie être immigré italien, occupé à cuire du charbon de bois dans les forêts du Vercors en 1943-1944? Alors ça, c'est une immense question. Et c'est à partir de là que je me suis mis à vagabonder et à interroger autrement par en bas une histoire-mémoire de la période 39-45. Et avant de redonner la parole à mon camarade Rémi, et pour bien vous montrer à quel point le travail de Marie résonne avec mes questionnements de chercheur et mon ancrage dans ce territoire. Toujours à l'occasion de cette enquête, alors vous voyez, on est à la fin des années 1990, donc il y a des témoins oculaires encore en capacité de parler de 39-45, mais moi je ne vais pas les rencontrer. En tout cas, je ne vais pas les solliciter du point de vue de leur engagement dans la résistance, ça ne m'intéresse pas. Et je me livre à une forme d'arpentage. Alors, l'arpentage, là, moi, je m'inscris délibérément, volontairement, spirituellement, dans le sillage de Martin Lassoudière, qui est un ethnologue du paysage. Et quand même, parce qu'on vit une époque un peu particulière en ce moment, j'allais dire Martin Lassoudière, c'est l'anti-Sylvain Tesson. Voilà. Une épopée virile, je vais au bout du monde, hein, et je vous le fais savoir, et Martin Lassoudière, c'est le voyage ordinaire, c'est les lignes secondaires, c'est les départementales, c'est le chemin sinueux, c'est l'arpentage, et ça résonne vraiment avec la proposition de Marie. Et donc, à l'occasion de cette petite enquête sur les charbonniers du Vercors, je rencontre un monsieur qui est un chasseur de Rochechinard. Rochechinard, c'est une petite commune qui domine Saint-Jean-Royan, dans la Drôme, et puis il va me montrer des charbonnières. Parce qu'il a vu travailler les charbonniers italiens. Et puis, à un moment, comme ça, au détour d'un chemin, il me dit, tu vois, Philippe, c'est là qu'il y avait les Indochinois. Les Indochinois dans le Vercors, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à partir de là, alors je note ça sur un petit carnet, mais moi, ça m'intéresse pas particulièrement, les Indochinois, et j'y reviens bien des années plus tard, parce que, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans cette région, il y a eu des requis, donc, la France, comptait s'appuyer sur son empire, pour battre les puissances de l'Axe. Il y avait, alors, des groupes d'indigènes plus connus, dont la mémoire est davantage inscrite dans le récit du Vercors, c'est les tirailleurs dits sénégalais. On a plus récemment intégré aussi la figure des tirailleurs nord-africains. Mais alors les Indochinois, ils étaient totalement absents du récit. Et en fait, donc, ce sont des indigènes, ni civils ni militaires, qui arrivent à Marseille, qui sont placés dans un camp à Sorgues, et ensuite Sorgues dans le Vaucluse, et ensuite dispatchés dans des camps de travail. Alors, certains vont intégrer des usines d'armement dans la Loire, à Saint-Étienne, à Roanne, dans la région également de Bourges, et puis dans les arsenaux militaires, et puis d'autres vont travailler dans la forêt. Et à l'été 1942, il y a des grandes coupes forestières, alors dans les Monts du Matin, au-dessus de Saint-Jean-Royan, mais également en forêt de Lente, etc. Et là, d'un seul coup, je me suis intéressé à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale par les outsiders, les subalternes. Voilà. Et toi, Rémi?
Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures, donc, mais du coup, je vais quand même continuer. Moi, au départ, c'est vrai que c'est intéressant. Quand je viens d'abord sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça va faire un peu le lien. Je viens plutôt sur les questions de mémoire du génocide des Juifs. D'abord pour des questions familiales, puis ça va faire lien. Sauf que quand je m'y intéresse, quand j'ai 20 ans, en fait, je m'intéresse à ça de façon théorique, mais pas au niveau familial. Les absurdités, parce qu'en fait, dans ma famille, on me disait qu'il n'y avait pas grand-chose. Pour le dire rapidement, j'ai jamais connu mon grand-père. On me disait qu'il a été caché pendant la guerre. Bon, voilà. Parce que c'est un enfant. Bon, il était né en 1920, il avait donc 20 ans en 1940, il n'était plus un enfant, mais puisqu'on m'avait dit qu'il était un enfant, dans ma tête, c'était un enfant. Bon, voilà, je n'avais pas compté, quoi. Bon, c'est un peu les absurdités. Et quand il y a quelques années, ma grand-mère est décédée, on a retrouvé pas mal d'archives. Et dans les archives, j'ai compris qu'en fait, il était à Roanne pendant la majorité de la guerre. Là, je me suis dit, ah, le récit familial était donc un peu plus complexe. Et bon, je vais rapidement sur l'histoire, mais en gros, je fais quelques recherches. Là, je suis déjà historien à ce moment-là. Et très vite, en allant sur Internet, parce qu'Internet, c'est un peu aussi un des terrains de recherche maintenant, quand même, quand on fait de la recherche, Je trouve des traces de lui dans des écrits d'Henri Boulafko, qui est quelqu'un qui a été très important sur la mémoire de la Shoah, et qui dit qu'il a été résistant. Alors je lui dis, bon, jamais entendu parler, j'en parle à mon père, jamais entendu parler, etc. Et je retrouve des archives, en fait, qui concernent mon grand-père, mémorial de la Shoah. Et là, je te laisserai commenter après ce type d'images, parce qu'elles me semblent intéressantes. Je retrouve des archives qui prouvent que mon grand-père a fait partie de la résistance juive pendant la guerre. Mais surtout, il y a des photos de lui, en fait, avec des sortes de scouts juifs, entre 40, 41, 42, où ils font la fête dans la forêt de Sénart, ils sont torse nus, ils s'amusent, etc. C'est-à-dire un autre récit complet de la résistance, enfin, dans mon imaginaire, surtout pour des résistants juifs. Donc ça m'a posé beaucoup de questions, un, sur l'absence de transmission, qu'est-ce qu'on fait, sur toutes les archives qui existent, mais qui ne sont pas encore, en fait, utilisées, parce qu'en fait, elles sont là, mais parce qu'on ne s'est pas encore posé la question, ou parce que de nouvelles générations arrivent pour se poser certaines questions. Et puis aussi sur un autre rapport, en fait, à ce que peut être, mais ça, on en a déjà parlé, et je sais que ça t'intéresse, sur c'est quoi le maquis, c'est quoi la résistance et la joie, enfin, pas qu'une version ou violente ou une version, comment dire, héroïque, mais aussi, en fait, bon, des jeunes qui sont ensemble et qui ont envie d'être jeunes aussi, clairement. Donc ça, je me suis dit que ça faisait une bonne transition parce que tu aimes bien revenir là-dessus et c'est aussi, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, puisqu'on parle quand même aussi politique, l'importance de la joie dans la résistance ou l'importance de la joie dans le militantisme, c'est des vraies questions en fait qui se reposent sur, bon, même quand on n'a aucun espoir politique ou très peu d'espoir politique, quelle est l'importance de la joie? Bon, et là, je trouve ça c'est assez intéressant. Bon, voilà, je te laisse.
Alors, quand j'étais adolescent, moi, je faisais du rock'n'roll dans le Jura, du ce qu'on appelle du rock garage, donc un truc assez binaire, pour être très élaboré. Et puis, avec mes copains d'enfance, on disait toujours, on va prendre le maquis. Alors, c'était une manière d'entrer dans la dissidence. Et moi, j'aime bien ce vocable dissidence. Et puis, je savais pas qu'un jour, ça se concrétiserait sous la forme d'un livre. Et effectivement, moi, la question du principe espérance m'interpelle. Alors, je crois savoir pourquoi je ne m'intéressais pas à la résistance en Vercors quand je suis arrivé dans la région. Tout simplement parce que la manière dont était mis en récit cette expérience extrêmement complexe, c'était essentiellement sous l'angle de la martyrologie. C'est-à-dire territoire meurtri, victime de la barbarie, et on était encore dans la pensée consolatrice. On est à la fin du pèlerinage du souvenir. Tous les dispositifs mémoriels, et il n'y avait pas encore le mémorial de la résistance. Moi, j'arrive en 91, hein, il est inauguré, c'est un des grands gestes mitterrandiens en 94. Et donc, le récit est vraiment centré sur la dramaturgie, la persécution, et donc il est impossible de parler de la joie. C'est même déplacé. Et la question de la joie, elle arrivera après, peut-être par l'ethnographie, en effet. Et moi, quand je rencontre le monde paysan du Vercors, avec qui je me lie vraiment d'amitié, alors c'est intéressant par rapport à toute la discussion autour de la fabrique de l'archive. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire de l'histoire avec. C'est-à-dire que je rencontre des gens du monde agricole, on monte un petit groupe d'histoire locale, on va créer une revue bon, qui continue à vivre, d'ailleurs sans nous, qui s'appelle « Les cahiers du Peuil ». Et il y a une vraie mixité sociale. Il y a vraiment des paysannes et des paysans. Il y a un garde forestier. Il y a un ingénieur qui travaillait sur le site du CEA à Grenoble, hein, parce que c'est un haut lieu de l'ingénierie hexagonale, Grenoble. Des enseignants. Et puis, on fait société ensemble et on va partager des questionnements. Et nos amis agriculteurs, ils vont pas se contenter d'être les témoins. Ils vont problématiser et écrire. Et on va co-écrire cette histoire-là. Et en revanche, il y a un tabou. Dans notre petit groupe de travail, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ah non, alors, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la douleur, certes. Mais aussi parce que ce récit est omniprésent, il sature tout. Et c'est le paradoxe que tu soulèves aussi dans ton reportage, parce que, dans ta création, parce que, c'est partout, mais c'est nulle part. C'est vrai que l'odonymie, la toponymie, le rond-point des martyrs, place de la résistance, etc., etc., c'est très, rue du Camp d'Ambel, c'est très écrasant, etc. Comme le disait Daniel Fabre, hein, un anthropologue qui a travaillé avec Alban Bensa sur les histoires ordinaires, les monuments sont habités. C'est-à-dire que dans un territoire saturé, où il y a overdose de mémoire, il faut aussi à un moment s'en débarrasser ou la mettre de côté. Donc à la fois, elle est omniprésente et nulle part. Et puis en plus, le Vercors, c'est un territoire à valeur ajoutée touristique, d'entertainment. Alors, il y a une forme de concurrence entre deux types de tourisme. Le tourisme du souvenir. Et moi, quand j'arrive dans la région, c'est la fin du tourisme des autocaristes. Ça commence à sentir le sapin. Et puis, il y a le tourisme de pleine nature, du ski, etc. Et tout ça ne fait pas nécessairement bon ménage. Mais l'autre, l'alter récit, le récit composite d'un territoire qui s'est mis debout, en quelque sorte, ou un territoire cosmopolite, hein, c'est-à-dire des individus d'horizons divers qui se retrouvent et qui fabriquent une autre société, ces questionnements-là commencent à émerger voilà, dans le tournant des années 90-2000. Et nous, on s'en empare. Et alors, je fais le lien avec ta communication à propos du mémorial de l'oppression. Moi, je suis tombé des nues parce que j'ai découvert ce document par hasard, non pas aux archives départementales du Rhône, mais en lisant un fac-similé aux archives départementales de l'Isère. Et je cherchais à ce moment-là les archives sur des Italiens, et puis je vois ce document. Et je tombe sur une déposition devant les gendarmes de Villard-de-Lans en 1946, d'un de mes meilleurs amis, Paul Guillot, avec qui j'ai fait de l'histoire locale, et qui m'a toujours dit « moi, j'ai rien à dire sur 39-45 ». Et là, je vois la déclaration de Paul, qui raconte sa journée du 21 juillet 1944, où il fait les foins avec son papa, à Lens-en-Vercors, et il voit arriver la colonne d'Allemands par Saint-Nizier, et là, de ce coup, et c'est un moment historique inouï dont il a été témoin et acteur. Je vais voir, donc je me fais faire une photocopie aux archives départementales, je vais voir Paul, et je lui dis, et ça, c'est rien. Et Paul n'était ni un martyr, ni un héros de la résistance, puisqu'il n'était pas résistant, il était jeune paysan. Je lui dis, mais là, Paul, t'as des trucs à nous raconter. Et à partir de ce moment-là, il a enclenché un vrai travail de témoin. Il est allé intervenir dans les classes, etc. etc. Et moi, ça m'a aussi libéré. Nous nous sommes autorisés à faire le pas de côté et à rentrer dans cette histoire-là par en bas, hein, par l'ordinaire. Et je reviens à Martin Lassoudière parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, qui a travaillé beaucoup sur la Margeride, et notamment sur les activités de cueillette féminine et masculine. Et puis, à partir de ses activités de cueillette, il est rentré lui-même dans la guerre et il a écrit un petit essai qui a un peu passé inaperçu sur jours de guerre au village. Et cette approche de la Seconde Guerre mondiale par la quotidienneté, dont on a de très beaux échos dans la création radiophonique de Marie, est venue nous chercher et nous a libérés. Nous a libérés d'une histoire politiste, par en haut, par les organisations, par les figures légitimes, par tout ce qui est. Et cette histoire-là, elle est encore à écrire. Hein. Donc, c'est une histoire vagabonde, c'est une histoire braconnée. Et je pense qu'on aura de cesse de l'enrichir. Voilà. Je pense qu'on en est vraiment qu'au début. Voilà. Je sais pas, moi, je... Est-ce que ça t'inspire ?
Ouais. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai envie de parler du Rwanda, mais faut pas. Mais non, mais plus sérieusement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, une amie qui est rescapée et qui est au Rwanda m'a envoyé les miracles aussi de... Et les transformations totales, d'ailleurs, dans la façon de travailler, c'est que moi, quand j'ai commencé ma thèse il y a 15 ans, il n'y a pas WhatsApp. Et maintenant, en fait, il n'y a plus de différence totale entre terrain, pas terrain. Je veux dire, le terrain est tous les jours. Et puis, moi, je discute tous les jours avec les amis rwandais. Donc, en fait, ça change beaucoup, en fait, le rapport à l'espace, au temps, etc. Et justement, elle m'envoie un extrait de témoignage où, en gros, d'un texte par quelqu'un qui n'est pas rescapé, qui parle de la vie avant le génocide. On a l'impression que tout est affreux. Et elle, son réflexe, c'était de dire « Et notre quotidien, c'était pas ça, et notre vie n'est pas que ça. » Et donc, c'était une réflexion là, vraiment en lien sur comment on écrit l'histoire en dehors, justement, des seuls moments qui sont les moments de violence, ou certains moments, alors que la vie est bien plus large, et donc toute la quotidienneté, le monde rural, enfin, la vie, quoi. Comment on écrit là-dessus? Et puis, il y a plein de parallèles, parce que, par exemple, là, sur les archives... au Rwanda après le génocide, il y a ce qu'on appelle la commission mémoriale et c'est un copier-coller, hein. C'est-à-dire en gros c'est étudier les premiers témoignages, etc. Donc il y a la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un récit très très fort juste après. Évidemment, quand on est 30 ans après, c'est différent parce que la vie est là, on a moins envie de parler et puis il y a d'autres priorités, quoi. Après, dans le cas qui nous occupe et qui... je parle de Memora, mais juste parce que moi, je trouvais que la thématique de cette structure, de cette association, quand j'étais arrivé il y a plus de 10 ans, elle me passionnait. C'était, on arrive vers la fin des témoins, et qu'est-ce que ça fait ? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça fait qu'on arrive ? Et là, déjà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il n'y a presque plus de témoins. Il y a les enfants d'eux, mais on a cette idée de c'est fini, quoi. On ne peut plus interroger vraiment les derniers témoins. Et ça, c'est quand même la grande question qui se pose et qui se pose aussi même en termes de transmission. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on va vers un désintérêt du sujet ou pas ? Enfin, et même d'un point de vue purement professionnel, moi, quand on me demande de dire c'est quoi l'histoire contemporaine, moi, je dis c'est quand il y a des vivants. Alors qu'il y en a qui disent l'histoire contemporaine, c'est, je sais pas, depuis la Révolution française. Enfin, les Français disent ça parce qu'ils sont fiers de la Révolution française. D'autres vont dire c'est le XXe siècle. Moi, je dis, bah, c'est quand il y a des gens en vie. Est-ce que c'est encore contemporain s'il n'y a plus de gens en vie ou s'il n'y a plus de gens pour en parler? Ça, c'est vraiment une question.
Alors, c'est super parce que là, on est vraiment en live. Moi, la commémoration, ce qui m'intéresse dans la commémoration, vous voyez bien le rituel républicain, hein, ce qui est profond ennui. Hein. En revanche, pour moi, là, du point de vue anthropologique, la commémoration, c'est le lien entre les vivants et les morts. Et notre journée, elle ne cesse de nous rappeler ça, en définitive. C'est-à-dire que c'est pour nous qu'on commémore, c'est pour gagner en dignité. Et ce matin, à la deuxième écoute des pianistes, j'ai été extrêmement touché par tous ces petits rituels de dignification de Rémi, de Léa et d'autres, quasiment en temps réel. Nous, notre devoir moral était de leur donner une sépulture. Et évidemment, puisque on peut pas faire comme si nous n'étions pas d'un temps, notre conversation de cet après-midi, elle se situe dans un moment très particulier de crise des modèles démocratiques un petit peu partout dans le monde. Et moi, depuis quelques années, je mène aussi des enquêtes ethnographiques à la frontière de Briançonnais, avec des géographes, des anthropologues, on travaille en équipe. Et vous savez qu'il y a des personnes qui décèdent lors du franchissement de la frontière franco-italienne aujourd'hui, et qu'il y a des collectifs très composites du point de vue de la sociologie, avec des activistes libertaires, des chrétiens, qui se rassemblent en disant simplement « on crée un mémorial pour les morts aux frontières ». Un petit cairn mémorial, on met une bougie, et ensemble, nous les vivants, nous pensons à ces individus, à qui nous redonnons une dignité, et que nous réinscrivons de fait dans notre commune humanité. Et c'est ça dont il est question ici, au Glovette, dans ce moment très fort qui anime ces jeunes scouts. Et ce moment-là, il est réparateur. On en a impérativement besoin. Au moment où la barbarie s'abat, sur le Vercors ou ailleurs, peu importe. Et en ce moment, nous sommes certainement en train de basculer dans une nouvelle forme de barbarie, nous, les Occidentaux, penseurs des droits de l'homme. Hein. Et cette question de la dignification des morts, et ça ne justifie pas nécessairement le fait qu'il y ait aujourd'hui... La question, c'est simplement, ces personnes qui meurent pendant la traversée sont nos frères humains, nos sœurs et nos frères humains. Et ce travail-là, il est fondamental. Et d'un seul coup, je me dis, mais tout... nous les réinscrivons dans la litanie longue des victimes, etc., etc. Et je pense que moi, ce matin, c'est venu me percuter. Hein, c'est-à-dire que je me suis rendu compte. Et bon, on a parlé des populations persécutées pendant la guerre. Qu'est-ce que ça signifie être la question du stigmate, par exemple aussi, hein, montrer du doigt, désigné comme n'étant pas légitime, ne pas avoir sa place dans la société, par exemple. Le Vercors, de ce point de vue-là, c'est aussi une caisse de résonance de ces questions-là, puisque, bon, on sait qu'à Villard-de-Lans, un certain nombre d'enfants ont été cachés, de familles juives, de militants antifascistes également, hein, d'horizons divers, et que ce territoire, il porte aussi toutes ces histoires-là très, très complexes, et dont ta création nous permet de prendre en considération autrement. Et je trouve que ça, c'est, de ce point de vue-là, c'est aussi extrêmement émouvant. Je ne sais pas si tu voulais...
Non, c'est pas facile d'aller après ça. Non, j'allais dire, et puis parce qu'on s'était dit qu'on ne serait pas trop long, c'est que parmi les choses qu'on partage aussi et qu'on voit vraiment très bien dans la création, et puis la suite, ça va être ça aussi, c'est que y a l'archive et son importance, il y a faire réécouter les archives, et puis... le fait qu'on a le droit aussi d'ailleurs de les utiliser, découper, etc. Ce qui, pour un historien, c'est très agréable d'entendre ça, de quelqu'un prendre cette liberté. Mais c'est aussi l'importance du terrain. Et moi, là, j'attends beaucoup, en fait, de fait qu'on va aller sortir et marcher, etc. Mais dans le sens, parce qu'en fait, on pense totalement différemment, en fait, quand on est sur les lieux. Et tous ces questionnements qu'il y a dans la création sur... Bon, c'est quoi maintenant? C'est quoi les Glovettes? Alors, c'était une ferme, mais c'est quoi la ferme, etc. Et cette réflexion sur le terrain, parce qu'il évolue, le terrain. Alors là, c'est encore des terrains qui évoluent, ou qui ont beaucoup et pas trop évolué, mais des fois, quand on est sur des sujets, en fait, tout est différent. Alors là, les questions se posent encore différemment. Et Et on dit ça parce que c'est vrai qu'il existe des formes d'historiens pour qui il n'existe que des archives où il n'y a pas de vie réelle, quoi. Et donc cette question de la vie réelle, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, ça va pas tant toujours de soi. Et donc voilà, c'est important de le rappeler. Donc après, on va aller marcher. Et puis pour les auditeurs, c'est important de marcher et de découvrir le territoire. Enfin, je veux dire, c'est banal, mais en fait, c'est des questions. Et puis, enfin, je disais tout à l'heure à Philippe en aparté, c'est que paradoxalement, en fait, quand on s'intéresse en chercheur maintenant sur les questions archives, mémoire, histoire, etc., en fait, c'est le numérique qui prend toute la place. Parce que, en fait, bah, par exemple, j'ai donné un cours il n'y a pas longtemps sur les questions de mémoire coloniale au Portugal. Comment est-ce que ceux qui ont fait la colonisation portugaise échangent? Mais c'est sur Facebook. Il n'y a pas des vrais groupes où ils se rencontrent, etc. C'est sur Facebook. Donc, en fait, tout est transformé. Et donc, ouais, le numérique prend en vrai toute la place. Il prend aussi toute la place pour les nouvelles générations. Donc, ça pose plein de questions, à mon avis, y compris sur l'archive. Heureusement, nos discussions n'ont pas été sur ChatGPT, etc. Néanmoins, de grandes questions se posent actuellement sur l'évolution dans le rapport aux archives, dans le rapport à la vérité, dans le fait que les archives sont maintenant nativement numériques, en fait. Donc, elles sont directement... Ce qu'on a fait tout à l'heure, simplement, de se montrer en vrai, enfin, des objets, etc. En fait, c'est un peu la fin, d'une certaine façon. Et donc, ça pose plein de questions. Je ne sais plus pourquoi je disais ça.
Mais... Alors, je rebondis sur la corporéisation nécessaire. Et je crois qu'on est d'une génération où on ne peut pas ne pas assumer nos affects. Et le fait qu'effectivement, moi, je ne peux pas faire de l'histoire sans aller éprouver au plus près du terrain mes hypothèses. Et par exemple, moi, je suis venu aussi beaucoup à la Seconde Guerre mondiale par la forêt. Et je me souviens d'un cours que m'avait donné un de mes maîtres, ça fait un peu à l'ancienne, à l'Université de Franche-Comté, à Besançon, François Marco, qui est un des spécialistes du maquis en France. Et François Marco nous disait, je me souviens de cette phrase, ils allaient respirer dans les forêts, un air libéré de la présence des nazis. Donc c'est l'aube de la dissidence finalement, aller dans la forêt, hein, faire le pas de côté. Et on voit bien que dans l'imaginaire là, collectif depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge, c'est l'espace de la dissidence. On aime bien opposer le finage, hein, le terroir villageois au monde de la forêt, l'espace de l'ensauvagement possible, à l'homo sylvaticus mythique. Et il y a dans le devenir maquisard une expérience très forte de la forêt, quand bien même. Cette forêt, pendant la Seconde Guerre mondiale, est-elle réduite à peau de chagrin parce que elle est surexploitée, hein, parce qu'il n'y a plus de pétrole en Europe, donc il faut faire tourner les gazogènes, etc. Donc il y a un recours massif aux forêts et en même temps, métaphoriquement, elle est l'espace de la liberté. Et marcher en forêt, comprendre ce que fut aussi la possibilité de la vie clandestine. Et là aussi, c'est très intéressant parce que le mot clandestin, vous voyez, il y a un très beau texte de Didier Fassin qu'on peut trouver en ligne qui met en tension le vocable dans sa dimension lumineuse. Devenir réfractaire, renoncer à son identité sociale, disparaître, donc rentrer dans la forêt, hein, avoir masqué son visage par l'ombre des grands résineux. C'est devenir clandestin. En l'occurrence, c'est une expérience transgressive, mais du point de vue de l'imaginaire politique, si vous estimez que les valeurs qui régissent une société ne sont plus humaine, il est de votre devoir d'entrer en clandestinité. Donc là, on a la figure du clandestin, figure éminemment positive. Et puis, vous voyez, je renvoie à la question des migrations, qui est un de mes sujets de recherche aujourd'hui. Le clandestin, c'est celui qui ne respecte pas l'état de droit, qui franchit clandestinement la frontière, etc. Donc il y a vraiment cette bipolarisation. Et pour les puissances gouvernantes, eh bien, le clandestin va devenir le terroriste. Hein. Et là aussi, je trouve que c'est très intéressant de voir, comment aujourd'hui on fabrique des catégories, comment elles viennent résonner avec notre actualité. Et cette question du vagabondage sur le territoire, sur le terrain. Moi, par exemple, un truc tout bête, mais vous lisez des archives, des documents écrits, vous regardez des cartographies anciennes, vous essayez de localiser. Tiens, on parlait tout à l'heure de la grotte des fées. C'est pas évident d'aller à la grotte des fées, hein, ça va pas de soi. Passer un col quand on n'est pas bien nourri. Je pensais au fils de Jean Prévost, par exemple, qui allait régulièrement, qui descendait à Diolfi à bicyclette, porter des messages à Diolfi. Imaginez le col de Rousset, le col des Chaudières, etc., avec des vélos qui n'étaient pas nos vélos d'aujourd'hui, hein, sans changement de vitesse, avec des pneus plats très très lourds. Voilà. Ce que c'est aussi que corporiser la pratique de l'espace en contexte de guerre. Donc là, il y a plein de questions nouvelles. qui sont passionnantes à partager et qui font qu'on... Moi, je crois qu'on n'en est qu'au début du questionnement sur le, enfin, de la connaissance sur ces grands, ces grandes organisations en contexte de guerre. Voilà. On peut peut-être aller marcher.
Les 30 minutes.
Avant de vous laisser partir vagabonder dans les chemins creux, pierreux, à la recherche de la source et des dernières traces hypothétique de la ferme de Virginie que Marie et moi avons imaginé déceler la dernière fois que nous sommes venus en septembre. Je pense qu'il n'y avait rien de la ferme dans tout ce que nous imaginions de ces tas de pierres, mais on se plaisait à le raconter. C'était très proche de la source qu'on va aller percevoir, écouter. Écoutez, déjà moi je vous remercie tout le monde pour cette journée assez, je le redis, atypique et extrêmement stimulante, très riche, très très généreuse. Il y a une vraie complémentarité dans les approches autour de cette œuvre commune et une réelle densité, mais une densité artistique, philosophique, esthétique, poétique, humaine en fait. Et je crois que cette densité, elle est vraiment, elle est produite par un geste lui-même extrêmement dense, fait de plis et de replis et de replis et de replis. Et c'est pas étonnant que on ait pu avoir cette journée sans absolument aucun ennui, et au contraire l'envie d'y retourner, l'envie de poursuivre, l'envie d'écrire, d'approfondir des choses que nous avons ébauchées dans cette journée et que nous souhaitons maintenant creuser. Et c'est par ton geste, Marie, que ce désir... Pardon, hein, je le dis. C'est le résultat de tout ce que ça stimule aussi chez les auditeurs. Voilà, moi, je vais pas trop insister parce que je sens les effets de la parole. Mais je te remercie très sincèrement au nom de tous, toutes, je pense, et aussi pour ta générosité parce que tu as accepté de nous, alors moi d'abord, te faire entrer dans ta chambre et que tu avais un peu rangé, mais où tu m'as dit « c'est quand même sacrément le bordel dans ma chambre, mais je vais te laisser entrer dedans ». Et c'est une générosité remarquable, extrêmement singulière. Stop. Merci beaucoup.
Over. Non, je veux juste dire que pour une personne de radio, comme je le disais, les personnes de radio sont plutôt mutiques à l'origine. C'est pas pour rien qu'on taille dans la voix des autres. Et le documentaire par lequel j'ai commencé la journée, je vous ai fait écouter la voix de Gilbert Maurice Dupresse. Ce documentaire s'appelle La bouche d'ombre. C'était l'expression de Cocteau pour parler de la radio. Donc voilà, donc j'ai beaucoup entendu mon nom, mon prénom aujourd'hui, c'est assez étrange. Donc nous allons effectivement aller sur le terrain vagabonder parce qu'il n'y a que ça de vrai, de se mettre en mouvement, en recherche avec nos corps, nos chaussures, nos pieds. Et je voulais juste dire deux derniers mots, c'est la figure aussi que j'ai pas citée du girovague, le girovaguisme. C'est un mot qui me tient à cœur. Voilà, Charles de Foucault était suspecté d'être girovague. C'était voilà des démarches assez spirituelles et ce mot me parle. J'ai pas creusé, mais il est arrivé à moi et il m'a parlé. Et autre chose pour répondre à l'intervention de Céline, j'aurais pas la citation exacte, mais le braconnage, c'est issu de l'usage du quotidien de Michel de Certeau. Mmh. 1000 manières de braconner. Mmh. Et je sais plus, voilà, j'ai que ça en tête, 1000 manières de braconner. Voilà, je vous la retrouverai. En marchant.
Et alors, si ce sont les derniers mots prononcés au micro, nous allons remercier chaleureusement Radio Royan-Vercors d'avoir enregistré cette journée incroyable. Donc, cette journée qui va être diffusée sur les ondes, vous voyez tout le sens que ça a, et qui va être évidemment podcastable, comme on dit aujourd'hui. Donc, possibilité de l'écouter par morceau, par fragment, en fonction de radioroyan.fr. Je veux aussi remercier très chaleureusement, à nouveau, l'équipe de Villa Glovette. Vous avez été formidables et c'est un grand plaisir d'avoir éprouvé avec vous cette journée totalement barjot de recherche sur le terrain et absolument formidable. Merci à vous. Et
merci
bravo.
beaucoup. Alors, merci à vous. Et c'est vrai que pour les auditoristes qui ne sont pas là, Philippe Anus est en train de faire un petit trait d'humour lynchien. Il dit, et c'est là que le panneau pizzeria à Valonge tombe, parce qu'en fait, on mettra des photos, hein, Céline. Avec les magasins fermés autour de nous, grillagés, et il y a la pizzeria à Valonge, en effet. Moi, j'aimerais juste clôturer. Vraiment, j'ai ouvert et je vais fermer avec cette petite parenthèse lynchienne, si vous me le permettez. On a parlé de la forêt libertaire, on a parlé de sang sauvager, du vagabondage sur le terrain, de la grotte des fées, de passer un col, la ferme des Guillets, vers où on se dirige. Mais je vais vous citer le shérif Truman. Il y a une sorte de mal là-bas, quelque chose de très très étrange dans ce vieux bois. Appelez ça comme vous voulez, une obscurité, une présence. Il prend de nombreuses formes, mais il existe depuis aussi longtemps que l'on se souvienne. Et nous avons toujours été là pour le combattre.